On va donc arriver maintenant à une partie, alors ce n'est pas vraiment une partie de message, c'est plus une partie de... On va creuser un peu plus le texte, et ça n'aura pas la longueur d'un message, mais j'aimerais vraiment qu'on puisse se sentir encouragé parce que l'on va partager maintenant. En tout cas, moi personnellement, j'ai été encouragé par le temps que j'ai passé à le préparer. J'aimerais qu'on revienne sur ce texte d'Ésaïe chapitre 9, versets 1 à 6. Et j'aimerais, pour pouvoir bien saisir ce passage, se rappeler de plusieurs choses. Ésaïe, c'est un prophète. Un prophète, il avait souvent une annonce avec une application immédiate, une portée immédiate dans ce qu'il était en train d'annoncer, et aussi une portée future, qui était annonciatrice de quelque chose. D'accord ? Donc dans la prophétie, il y avait souvent quelque chose d'immédiat et quelque chose de futur. Et c'est le cas, en fait, pour ce que Ésaïe nous rapporte ici. Pour le contexte, et là, je vais juste demander vraiment un peu d'attention, parce que le contexte va être important pour saisir l'état d'esprit dans lequel étaient les Israélites au moment où ils ont reçu cette prophétie. Pour le contexte, il faut savoir que dans l'actuel Irak, qui à l'époque s'appelait l'Assyrie, L'Assyrie, d'accord ? Vous allez voir, c'est un peu technique parce qu'il y a la Syrie, dont on va parler, et l'Assyrie, d'accord ? Donc dans l'Assyrie, pour les Assyriens, il y avait à la tête de ce territoire de la Syrie, un grand roi qui avait des envies d'expansion. Il souhaitait aller conquérir des terres supplémentaires. Et il se trouve qu'il y avait le royaume du Nord, d'accord ? Donc vous vous rappelez, le peuple des Israélites s'est séparé, il y avait le royaume de Juda au sud, et ce qu'on appelait le royaume du Nord. Donc il y a le royaume du Nord, ainsi que la Syrie, qui eux n'avaient pas envie d'être annexés par les Assyriens. On peut se comprendre. Et donc en fait, ils avaient formé une coalition. Coalition qui s'appelait la coalition Syro-Éphraïmite. D'accord ? Et en fait, ils étaient, on ne veut pas se faire coloniser par les Assyriens, donc on a envie de lutter, quoi. Sauf qu'ils avaient un petit problème. Au sud, d'accord, le royaume de Juda, il y avait à sa tête le roi Akaz. Et le roi Akaz, lui, il était plutôt pro-assyrien. D'accord ? Il était plutôt en mode, les Assyriens, ça peut être bien de faire alliance avec eux. Et donc, en fait, il y avait un vrai problème. Il y avait un vrai problème puisque, je vais vous montrer une carte après, on a le royaume du Nord, la Syrie, qui se retrouvait coincée entre le royaume de Juda, pro-assyrien, et l'empire assyrien qui venait pour essayer de coloniser. Et donc, en fait, là, il y avait un vrai, vrai souci. Donc, qu'est-ce que se sont dit le royaume du Nord et la Syrie ? Ils se sont dit, en fait, ce qu'il faudrait, c'est attaquer le royaume de Juda, parce que si on attaque le royaume de Juda, on pourra mettre à la place du roi qui est pro-assyrien, un roi qui serait anti-assyrien. Vous comprenez le principe ou pas jusque-là ? Ça va. Parce qu'au début, quand j'ai fait relire mon texte à la fin, elle m'a dit, il va falloir que tu expliques mieux que ça. Donc j'ai retravaillé un peu le truc. Et donc, en fait, on a ici le roi Akaz qui est attaqué par le royaume du Nord et par la Syrie, donc le royaume de Juda, au sud, il est attaqué par le royaume du Nord et la Syrie. Et en fait, qui est-ce qu'il appelle, sachant qu'il est pro-assyrien, qui est-ce qu'il appelle à la rescousse ? Il appelle Tiglath-Pileser III, qui est le roi d'Assyrie, le roi des Assyriens. D'accord ? Donc, il va appeler le roi d'Assyrie à la rescousse. Et Ésaïe, lui, en fait, il est prophète, il est dans le royaume de Juda, et il conseille au roi Akaz de se confier en l'Éternel plutôt qu'en l'Assyrie. Mais le roi Akaz, en fait, il va gentiment l'envoyer bouler. Et là, en fait, il y a des choses qui se passent. Il y a la coalition donc, du royaume du Nord et de la Syrie qui vont complètement ravager le royaume de Juda. Donc le royaume de Juda se fait ravager par les Israélites du Nord et par la Syrie. Et en fait, en réponse à ça, le roi assyrien, quand il arrive, lui, il va ravager qui ? Israël, donc le royaume du Nord, et la Syrie. Donc finalement, quand on regarde sur le territoire, là vous le voyez en fait, on a donc ici le royaume du Nord, le royaume de Juda, Aram c'est la Syrie, Aram c'est la capitale de la Syrie, et tout ça, ce que vous voyez ici en jaune là, tout ça c'est le royaume assyrien. Et donc le royaume assyrien vient, il ravage ici, Juda se fait ravager par ces deux pays, d'accord ? Et en fait il se trouve que plus tard, les Assyriens ils vont aussi ravager le royaume de Juda. Parce que pourquoi s'arrêter ici quand on peut aller un peu plus loin ? Et donc, en fait, on est dans ce contexte-là. On voit dans les chapitres 7 et 8 du livre d'Ésaïe où sont annoncées d'ailleurs la chute des royaumes du Nord et de la Syrie, et bien à ce moment-là, Isaïe annonce aussi que le royaume de Juda va se faire ravager par les Assyriens. Et c'est dans ce contexte de guerre, de tristesse, de désespoir, que Dieu annonce par la bouche d'Isaïe la venue d'une lumière qui brillera dans les ténèbres. Donc je ne sais pas si on réalise bien l'état d'esprit de toutes les personnes qui vivaient sur le territoire du Nord et sur le territoire de Juda, qui se sont fait complètement ravager, envahir avec des guerres fratricides. Ils sont au bout du bout, au fond du gouffre. D'accord ? Et dans ces ténèbres-là, on leur annonce une lumière. Et quand on s'imagine qu'ils reçoivent cette nouvelle-là, ça doit être quand même quelque chose d'absolument fabuleux. Parce qu'ils se disent, là où on est, là au fond du trou, il y a possibilité qu'il y ait une lumière qui vienne jusqu'à nous pour nous éclairer. Ça serait très intéressant aussi de lire, juste avant de vous mettre ça, le chapitre 8, verset 23, qui est juste avant le chapitre 9. Je vous propose, si vous avez votre Bible, encore une fois, de prendre le chapitre 8, verset 23 du livre d'Ésaïe. Donc tous ceux qui peuvent le faire, je vais vous le lire, mais tous ceux qui peuvent le prendre, c'est toujours bien de l'avoir sous les yeux. Le chapitre 8, verset 23, parce que ça va expliquer aussi encore un peu le contexte du livre d'Ésaïe. Donc Ésaïe nous dit « Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur ce pays envahi par l'angoisse. » Si, dans les temps passés, Dieu a couvert d'opprobre tout le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, dans les temps à venir, il couvrira de gloire la route de la mer, au-delà du Jourdain, le district des populations étrangères. Ça peut paraître un peu confus, mais on va juste décrypter très rapidement, vous allez voir, c'est pas compliqué. On voit en fait ici qu'Ésaïe parle du temps où Zabulon et Nephtali, qui est en fait un terme qui est employé pour parler du royaume du Nord, en fait ils vivent le désespoir. Eh bien ce temps, ça aura une fin. Puisque Dieu couvrira de gloire, alors là il y a un terme qui est traduit dans beaucoup de Bibles par le district des peuples étrangères, mais en fait littéralement c'était la Galilée des nations. Pourquoi est-ce qu'on parlait de ça, le district des peuples étrangères, la Galilée des nations? En fait on parle du territoire de Galilée. Le territoire de Galilée c'est un endroit où beaucoup d'étrangers, des personnes qui n'étaient pas originaires du peuple d'Israël, venaient. Et donc en fait c'était regardé avec beaucoup de mépris par les Israélites. Pour eux, la Galilée, c'était là où il y avait les étrangers. Entre guillemets, c'était un peu le ghetto, quoi. On les envoyait là-bas, on ne voulait pas trop en entendre parler. Ils étaient en Galilée, les Israélites méprisaient un peu cet endroit-là. Et en fait, là, ce que nous annonce Ésaïe, il est en train de dire, il y a de l'angoisse dans le royaume du Nord, mais il y a un endroit en Galilée qui sera couvert de gloire. Et là, normalement, il y a des petites clochettes qui doivent sonner dans notre tête. Où est-ce que Jésus a commencé son ministère ? Matthieu et Luc nous l'apprennent. Jésus a commencé son ministère en Galilée. Cette lumière, elle va arriver en Galilée. Pourquoi est-ce que le territoire de Galilée sera couvert de gloire? Et parce que c'est là que la lumière va commencer son ministère. Et ça, c'est quelque chose qui est fort. La lumière des nations qui mettra fin aux ténèbres et au désespoir fera parler de ce petit bout de terre méprisé des Israélites. Et cela nous conforte vraiment dans le fait que dans ce texte-là, on est bien en train de parler de Jésus, de façon claire et limpide. On ne peut pas se tromper. On parle bien de Jésus. Donc, on va rapidement relire les versets 1 à 4 du chapitre 9. « Le peuple qui marchait dans les ténèbres verra briller une grande lumière. Elle resplendira sur ceux qui habitaient le pays dominé par d'épaisses ténèbres. Ô Éternel, tu fais abonder l'allégresse, tu fais jaillir une très grande joie, et l'on se réjouit devant toi tout comme au temps de la moisson, ou comme on crie de joie lors du partage d'un butin. » Car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, le gourdin de son oppresseur, toi, tu les as brisés, tout comme au jour de la défaite de Madian. Toutes chaussures de guerriers qui martèlent le sol et tout manteau que l'on a roulé dans le sang seront livrés aux flammes pour être consumés. Dans le temps que le peuple d'Israël vit à l'époque, le peuple est divisé. Il est dévasté par les Assyriens. Et dans cette période de trouble, la promesse d'une lumière est simplement merveilleuse. Elle remplit de joie. Le peuple reçoit cette promesse qu'ils passeront d'un temps où un joug pesait sur eux, où un bâton frappait leur dos, passeront de ce temps-là à un temps de joie et de victoire. Ça fait tellement écho pour nous qui bénéficions du salut en Jésus-Christ. Rappelons-nous le plan général de la Bible. Le plan général de la Bible se résume en trois mots. Création, chute, rédemption. Création, chute, rédemption. Eh bien ce texte que nous sommes en train de lire, C'est le trait d'union entre la chute et la rédemption. Le peuple de Dieu passe des ténèbres à la lumière. Et c'est notre cas si nous-mêmes nous avons reçu le salut en Jésus-Christ. Nous sommes passés des ténèbres à la lumière. Et cela provoque quoi ? Cela provoque une joie immense. Une joie qui est comparée à la joie lors de la moisson. Alors personnellement, je ne viens pas du tout d'un milieu agricole. À mes yeux, les semailles, la moisson, tout ça, ça n'évoque pas grand-chose. Et je vous avoue que je ne me réjouis pas particulièrement quand je vois que le champ de blé qui est à côté de chez nous vient d'être moissonné. La seule question que je me pose, pour être tout à fait franc avec vous, c'est est-ce que l'agriculteur a pensé à en profiter pour enlever l'ambroisie qui est en bordure du champ et qui va sûrement venir dans mon jardin ? C'est un peu la seule question que je me pose. Donc, peut-être je ne suis pas sensible à ça. Mais pour les Israélites de l'époque, la moisson, ça évoquait quelque chose. Ça signifiait tant de choses que cette période de moisson, et eux comprenaient ce que c'est que cette notion de la joie associée à la moisson. La période de moisson était une période d'immense joie. Pourquoi ? Mais parce qu'après le dur labeur, après la peine que l'on se donnait à travailler la terre, venait enfin le temps de la récolte. Et là, c'était l'explosion de joie. On mangeait, on buvait, on célébrait cette récolte, qui était synonyme de quoi ? Synonyme de vie, tout simplement. De pouvoir continuer à manger, de pouvoir continuer à se nourrir. Lorsque la moisson n'était pas bonne, à l'époque, on ne recevait pas un chèque alimentaire pour pouvoir pallier à l'augmentation du prix de la nourriture. On ne se disait pas, mince, je vais devoir faire ma vinaigrette sans moutarde, parce que j'arrive pas à en trouver. Non, sans moisson, à l'époque, on savait que les temps s'annonçaient très difficiles. Alors quelle joie immense pour eux ça représentait que ce temps de la moisson. Et il y a une autre image qui nous est donnée ici. La joie pour le partage du butin. Parce que le partage du butin, ça veut dire quoi ? Ça veut dire la victoire. Ça veut dire la fin de la guerre. Vous imaginez si vous êtes vous-même à la guerre, ou si votre mari, ou votre père, ou votre fils est à la guerre. Lorsqu'on vous annonce que la guerre est finie, que la victoire est enfin là, que l'on partage le butin, quelle joie immense ! Quelle joie, quel soulagement de savoir que l'être aimé va pouvoir rentrer à la maison avec du butin pour pallier à ce temps d'absence où il n'a pas pu travailler dans le foyer. La vie revient enfin à la normale et on sait que les êtres chers que l'on aime, d'ailleurs en plus je me rends compte que je n'ai cité que mari, père ou fils, aujourd'hui il y a de nombreuses femmes qui sont dans les corps d'armée, et bien lorsque l'être aimé revient à la maison à la fin de la guerre et qu'il est en bonne santé, quelle joie immense de se dire nous sommes victorieux, il y a du butin. Eh bien, ce type de joie dont nous parle ce texte ici, cette joie immense, cette joie qui nous pousse à rire et à pleurer en même temps, c'est une explosion d'émotions positives. C'est de cette joie dont on nous parle dans ce texte. Alors parfois, on pourrait se dire que notre temps sur cette terre est le temps où on trime dans le champ, où on travaille la terre, où on est en plein cœur de la bataille. Que ce n'est pas facile maintenant, mais que plus tard, il y aura un temps de moisson, que plus tard, il y aura de la joie à la fin, au retour de Jésus-Christ. Mais pour être franc avec vous, lorsque je lis ce texte, je ne crois pas que nous sommes appelés à broyer du noir sur cette terre en se disant que la joie sera uniquement plus tard. Non. Je crois que, aussi fou que ça puisse nous paraître, ça peut paraître vraiment fou selon les épisodes de vie que l'on peut vivre en ce moment, mais ce texte nous enseigne que notre joie vient du fait que la victoire en Christ est déjà acquise et que notre sujet de joie, c'est maintenant. Cela nous est confirmé en Philippiens chapitre 4, verset 4. « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. » On n'est pas appelé à se réjouir de nos difficultés, mais on est appelé à se réjouir de ce que nous avons dans le Seigneur, c'est-à-dire de ce qui nous est acquis par le sacrifice de Christ à la croix. Nous réjouir de cette résurrection qui est la sienne et à laquelle il nous associe. Et cette joie, c'est une joie immense, une joie complète. Ce texte nous parle de la joie éprouvée parce que la lumière est entrée dans le monde. La joie vient du fait que la victoire est déjà remportée. Le joug qui pesait sur nous, le bâton qui frappait notre dos, tout cela a été vaincu à la mort de Jésus sur la croix. Et c'est une victoire qui, tout comme pour Gédéon, ne peut pas être attribué à nous-mêmes, mais ne peut être attribué qu'à Dieu. Une victoire éclatante et pour laquelle seul Dieu est méritant. Qui pourrait dire, honnêtement, en lisant l'histoire de Gédéon, que les soldats israélites avaient quoi que ce soit à voir avec la victoire d'Israël? Eh bien, ce texte nous montre que c'est exactement la même chose avec la victoire du Messie. Dieu a vaincu le péché et la mort une fois pour toutes à la croix. Et si nous sommes chrétiens, j'ai une bonne nouvelle, nous sommes dans le camp du vainqueur. Nous portions avant sur nos épaules le joug de l'esclavage du péché, qui a pour conséquence la mort. Colossiens chapitre 2, verset 13 et 14, nous dit « Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Mais si nous ne sommes plus esclaves du péché, cela signifie aussi que, grâce à Christ, le péché n'est pas une fatalité pour nous, et que nous sommes appelés à vivre une vie qui ne fera pas honte, qui ne nous fera pas honte lorsqu'elle sera mise en lumière. Et on ne peut pas faire ça tout seul. Nous avons besoin de quelqu'un qui est revêtu d'une immense puissance pour nous aider à cheminer, pour nous aider à vivre ce que la Bible appelle la sanctification. Et c'est pour ça qu'on va relire les versets 5 et 6. Les versets 5 et 6 nous disent « Car un enfant est né pour nous, un fils nous est donné, et il exercera l'autorité royale. Il sera appelé merveilleux conseiller, Dieu fort, Père à jamais et Prince de la paix. Il étendra sa souveraineté, il instaurera la paix qui durera toujours au trône de David et à tout son royaume. Sa royauté sera solidement fondée sur le droit et sur la justice dès à présent et pour l'éternité. Voilà ce que fera le Seigneur des armées célestes dans son ardent amour. » Alors on connaît bien ce passage. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. Lorsqu'un chrétien a un enfant et un petit garçon, il peut s'exclamer « Dieu m'a donné un fils ». Mais en fait, dans ce terme ici qui nous est donné, il faut comprendre plus que cela. Le terme ici « fils » se réfère à la notion de « fils de David », de la lignée royale. En fait, un fils nous est donné, on peut le lire aussi comme « un roi nous est donné ». Et ça, c'est confirmé parce qu'il est dit juste après « il exercera l'autorité royale ». Ce que nous recevons ici, c'est « un roi nous est donné ». De plus, ce fils qui nous est donné, qui est Jésus, il existe de toute éternité. Et il est venu en chair pour nous sauver. Notre Dieu est donc légitime pour exercer l'autorité royale. Ce n'est pas pour rien que nous l'appelons notre Seigneur. C'est un terme que nous utilisons beaucoup. Est-ce que nous comprenons la portée de ce terme Seigneur? Il est dit aussi qu'il est merveilleux conseiller. Combien de fois est-ce que nous allons chercher la sagesse du monde plutôt que de se confier en celui qui est le merveilleux conseiller? En celui qui a la sagesse absolue. Prenons cette habitude de nous tourner en premier lieu vers lui dans nos difficultés, vers ce merveilleux conseiller. Combien de fois ai-je personnellement, je le confesse, cherché une solution humaine en faisant marcher ma petite intelligence? La sagesse d'un merveilleux conseiller sera toujours bien plus profitable que toutes les solutions que je pourrais moi-même essayer de trouver. Il y a de nombreuses Bibles qui apportent de nombreux commentaires sur les différents qualificatifs qui nous sont donnés ici. Je vous encourage vraiment à les lire. J'ai tiré beaucoup de ces commentaires de la Bible du Semeur notamment. Il nous est dit aussi qu'il est écrit « Dieu fort, Père à jamais ». Notre Dieu est un roi puissant. Alors il se trouve que sur « Dieu fort », on peut le comprendre de façon très simple. Il y a aussi d'autres façons de le comprendre sur la notion de Dieu qui fait référence en fait au roi, etc. Mais ce que l'on peut retenir, c'est que notre roi est puissant. Et le terme « père » fait également référence à sa royauté. Le roi était aussi appelé le père. Mais c'est une royauté qui a une particularité. Père à jamais. C'est une royauté qui ne finira jamais. C'est une royauté éternelle. Et ça, pour nous, c'est quelque chose de merveilleux. Bien souvent, on limite notre vision des choses à ce que nous vivons maintenant, ici, sur cette terre. Mais notre Dieu est roi à jamais. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 19 nous dit « Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. » Est-ce que notre espérance en Christ, elle se borne à nous dire « Écoute Seigneur, accompagne-moi sur le chemin, sur cette terre ?» Et il se trouve que bien souvent on se rend compte, l'expérience nous montre que le chemin sur cette terre est loin d'être facile. Et parfois même, il peut nous sembler plus difficile lorsque nous marchons avec le Seigneur. Mais nous avons le Seigneur avec nous qui nous réconforte, qui nous apporte sa consolation. Et nous avons cette espérance immuable de la vie éternelle avec le Seigneur pour la suite. Et ça, c'est quelque chose d'absolument grandiose. Si nous n'avons pas cette espérance de la vie éternelle en Jésus-Christ, auprès de notre Dieu, alors tout ça, ça ne sert à rien. Croire en Dieu, ça a une portée immédiate. C'est vrai, car cela change notre façon de vivre, mais ça a aussi une portée éternelle. Parce que nous allons passer une éternité avec celui qui a tout créé. Le texte nous dit aussi que ce royaume éternel sera en paix. Plus de guerre, plus de violence, une paix absolument parfaite. Et pourquoi est-ce que cette paix sera parfaite? Comment on maintient parfaitement la paix? Là encore, le texte nous apporte la réponse. Puisque cette royauté sera solidement fondée sur le droit et sur la justice. Parfois, au regard de ce monde déchu, certaines choses nous semblent injustes. On ne comprend pas. Et pourtant, le royaume de Dieu est un royaume de droit, de droiture et de justice. Et cela dès à présent et pour l'éternité. Il ne faut pas croire que, pour le moment, Dieu sera injuste tant qu'il n'y a pas eu le retour de Christ, mais que plus tard, il y aura de la justice et du droit. Le royaume de Dieu est un royaume de justice et de droit dès maintenant. Et nous, nous sommes ambassadeurs de ce monde de justice et de droiture, mais nous sommes ambassadeurs dans un monde qui est injuste. Nous sommes à l'heure actuelle soumis à un Dieu juste. Et même si on ne comprend pas certaines choses qui nous arrivent, Dieu n'en est pas injuste pour autant. Notre vision limitée des choses ne doit pas limiter la justice de Dieu. Notre vision limitée des choses ne doit pas limiter la justice de Dieu. Et j'arrive maintenant à la conclusion. Nous avons vu ensemble la joie que nous pouvons éprouver face à cette lumière qui est venue pour briller dans nos ténèbres. Cette joie de savoir que cette lumière qui brille dans les ténèbres, elle a des qualificatifs absolument merveilleux. Le Messie, le terme Messie, signifie celui qui est loin, loin de l'éternel. Et le terme Christ, c'est la traduction grecque de Messie. Celui que nous suivons, notre sujet de joie, notre lumière, c'est celui qui est oint par l'éternel. C'est notre Messie, c'est Jésus-Christ. Et parfois, nous vivons des périodes où nous avons du mal à entendre et à accepter tout cela. Mais cela ne rend pas ces choses moins vraies pour autant. Et je vous encourage vivement à garder ce que nous avons lu ce matin dans un coin de votre cœur. Gardez-le là, présent, pour que, au temps convenable, vous puissiez vous sentir fortifié par ces choses-là et qu'elles puissent vraiment vous encourager. On arrive maintenant à la fin de notre culte. Je vous remercie pour votre attention, qu'on puisse continuer à profiter pendant cette semaine de la communion fraternelle, qu'on puisse continuer à prendre soin des autres, qu'on puisse se rappeler aussi que les temps de vacances sont des temps profitables pour pouvoir passer plus de temps avec le Seigneur. Et pas seulement plus de temps libre. Je sais que personnellement, c'est dans les temps de vacances où j'ai le plus de mal à me discipliner pour pouvoir passer du temps avec Dieu. Et en fait, je vous encourage vivement à pouvoir prendre ce temps-là parce qu'il est absolument nécessaire. Je vais demander à Nasser si tu veux bien conclure ce temps de culte en priant.